Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Oh, c'est une fin de semaine d'action de grâce. D'ailleurs, c'est la fin de semaine d'action de grâce. Et on veut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant les 25 ans et tout ça, les grandes choses qu'il peut accomplir. Mais maintenant, c'est des temps nouveaux. On a dit au 25e, ce que je vais parler un peu, c'était que c'est un temps charnière, que Dieu ouvrait la porte de nouvelles choses. Et c'est le temps de considérer ce que Dieu a pour nous maintenant, ce que Dieu veut accomplir, et c'est encore plus grandiose. La gloire de cette maison sera encore plus grande. Alléluia! Merci Seigneur. Vous savez que lorsqu'ils ont reposé les fondements du temple, il y avait une partie du peuple qui pleurait, puis l'autre partie qui se réjouissait. Et ceux qui pleuraient, c'était les plus vieux. Parce qu'ils se rappelaient que ce qu'il y avait avant et tout ça, ils demeuraient un peu dans le passé. Mais les nouveaux, bien, eux se réjouissaient de ce qui se faisait là présentement. Et c'est la même, ce qu'on veut, c'est se réjouir. Oui, on est content de tout ce qui s'est fait. Alléluia. Mais on n'est pas nostalgique. Parce que Dieu fait de plus grandes choses aujourd'hui. Alléluia. On est nostalgique lorsqu'il ne se passe pas d'autres choses. Mais on n'est pas nostalgique quand on voit la gloire de Dieu maintenant. Maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi qui prêche ce matin, donc je vais me taire. Une petite annonce pour dire que sur le site Sépare, le centre du plein esprit qui renverse les situations. il y a les prédications, les messages. Si vous n'avez pas pu entendre ou venir un dimanche et tout ça, bien, tout est là. Vous allez juste aller, puis vous allez avoir tous les messages. Oh, que Dieu nous bénit. Amen. Je vais inviter les placeurs avancés pour recevoir l'offrande ce matin. Vous avez sur les ans.
Oh, hallelujah. Parce que vous avez remarqué, mon épouse m'a quitté. Elle s'est assise à côté d'un beau monsieur. C'est un des beaux-fils. Vous savez, quand la belle-mère s'assoit à côté d'un beau-fils, c'est parce que ça va bien. Hein? Ma fille est malade ce matin, elle ne pouvait pas être là. Oh. On va le mettre là, pour tout de suite. Et j'ai à cœur de ne pas juste démarrer comme ça le message. J'aimerais qu'on se présente vraiment dans la présence de Dieu. On l'a fait déjà, mais j'aimerais qu'on vienne ici devant, à l'autel, et puis que réellement, il y ait une réelle soif. Je sais que Dieu a fait des belles choses déjà, mais il n'y a pas fini. Et on est là pour se laisser remplir, mais on est là aussi pour prier, pour demander. Si vous demandez, vous recevez, n'est-ce pas? Amen. Et puis, en même temps, ça va nous changer un tout petit peu d'être assis. Alors, je vous invite à venir vous approcher ici. Ce n'est pas moi qui vais juste prier, mais j'aimerais vous entendre. Et Dieu veut vous entendre. Dieu veut observer ici ce matin votre recherche, votre soif de lui. Dieu sonde les cœurs, les reins. Et vous allez recevoir à la mesure de votre soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est Jésus qui a dit cela. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une soif ce matin. Mon message, vous allez voir, bon, il va dans le même sens, évidemment, de la fin de semaine et puis du thème. Seigneur, envoie ta puissance. Maintenant, Dieu veut déverser cette puissance en nous. C'est vrai. Et dans l'Église, et dans le monde entier. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos bouches devant le Seigneur. On a chanté, c'est bien. Et on a déversé nos cœurs devant lui, mais je crois aussi qu'il veut, entendre notre souhait, notre désir. Et j'aimerais qu'on ouvre la bouche et qu'on puisse vraiment crier vers le Seigneur. J'étais dans l'île Maurice, en effet. Et puis ce que j'ai vécu à l'île Maurice, c'était exceptionnel, incroyable. Ça nous a supportés. Nos cœurs s'est élevé vers Dieu. C'était vraiment une onction d'intercession, de louange qui m'a dépassé. J'ai vu là la présence de Dieu. J'ai vu là la gloire de Dieu. J'ai vu là quelque chose d'exceptionnel. Et c'est quelque chose-là, je veux le voir ici. Amen. Une expression au travers de notre langage, au travers de nos cœurs, au travers de nos voix. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions élever nos voix et dire, oui, Dieu, j'ai soif. J'ai soif de toi. Si quelqu'un a soif de Jésus, hein? Si quelqu'un, ça veut dire que parmi vous, il y en a peut-être qui ont pas tellement soif, mais j'espère que non, hein, que vous n'avez pas une petite soif, mais que vous avez une grande soif. Et si vous avez une grande soif, vous allez l'exprimer devant Dieu avant d'entendre le message que je vais vous apporter ce matin. Alors, élevons nos voix vers le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, crions ensemble, disons, Jésus. Encore, Jésus. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif pour ton onction, visite-nous ce matin, touche-nous éternel Dieu, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, je te bénis Seigneur, je loue ton nom, je te glorifie éternel Dieu, tu es digne de recevoir la louange, la gloire, notre adoration. Oh, hallelujah. Élevons nos voix vers le Seigneur. Oh, Dieu, nous te supplions. Glorifie-toi, Seigneur, au milieu de nous. Élève-toi, notre Dieu. Oh, hallelujah. Merci, Dieu, pour ta présence. Merci, Dieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui brise le joug de l'adversaire. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, merci Dieu. Déverse ton onction ici ce matin. Nous brisons le joug de l'adversaire. Nous brisons l'ennemi lui-même. Nous disons arrière de Satan. Tu t'en vas au nom de Jésus. Nous voulons la présence de Dieu. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place dans nos vies. C'est terminé. Tu es le Dieu, le seul Dieu. Le Dieu que nous élevons. Le Dieu que nous aimons. Le Dieu que nous, dont nous nous nourrissons. Tu es le pain de vie. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Père, Seigneur, que ce matin, que sorte de ma bouche uniquement ce que toi tu veux je dise. Seigneur, que ce soit une inspiration qui vient du ciel, une inspiration qui vient de ton cœur, que ce soit les paroles, tes paroles, qui soient adressées, non pas les paroles d'un homme, au nom puissant de Jésus. Amen. Encore, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ouvrez vos cœurs. Et Dieu va parler ce matin. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le texte qu'on va prendre ensemble pour débuter n'est pas le texte que je vais vraiment sur lequel je vais vraiment parler, mais c'est un texte d'introduction. Je lisais ça cette semaine et je me suis dit, waouh. Peut-être que vous n'avez jamais regardé cela de la même façon que moi je l'ai vu, et je crois que ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et ça se trouve dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, et à partir du verset 10, et même peut-être à partir du verset 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Et Pharaon appela ses sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et puis, évidemment, verset 13. Malheureusement, je dis, le cœur de Pharaon s'endurcit. On voit ici Moïse et Aaron devant Pharaon sous l'ordre de Dieu. Ils sont envoyés là, puis imaginez bien, Pharaon n'est pas n'importe qui. Il a le droit de vie, il a le droit de mort. Il fallait que ces deux hommes soient certains, convaincus, que c'était Dieu qui les envoyait vers Pharaon. Et en plus, pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un miracle incroyable, extraordinaire. Et avez-vous remarqué cependant que les magiciens, les sages, les enchanteurs, là, et puis tout ce monde qui était au service de Pharaon. Maintenant, imaginez le contexte, dans quel contexte ces gens vivaient. On se rend compte qu'il y avait là donc une puissance étrangère, une puissance terrible, qui venait de l'enfer et qui exerçait toutes sortes de magie parmi ce monde. Hein? Alors remarquez bien que lorsque finalement les magiciens vont faire leur tour de magie, et j'aimerais juste vous dire ici que ce n'est pas la magie qu'on peut faire dans les écoles avec les enfants et où, c'est peut-être pas tout à fait de la magie qui vient de l'occulte. Parfois, il y a des tours de passe-passe et puis toutes sortes. Ici, c'était réellement la puissance de l'enfer. C'était le feu de l'enfer qui se manifeste là, et qui est opposé à la puissance de Dieu, ou alors que Moïse et Aaron vont démontrer la puissance, la grande et la toute puissance du Dieu d'Israël. Maintenant, les enchanteurs et puis la puissance de l'enfer se manifestent, et ça n'avait pas non plus, ça ne ressemblait pas à la magie avec une baguette magique. C'était réellement la puissance de l'enfer. C'était la puissance du diable, la puissance satanique qui agit encore dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, et on est confronté à cela. Et pourquoi notre thème de cette fin de semaine, c'est simple, c'est une des raisons pourquoi on a besoin d'avoir les dons spirituels et la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, et surtout Dieu qui est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a une opposition ici terrible entre ces deux puissances, la puissance de l'enfer et la puissance du ciel. Amen. Et ici, si je disais, voici Il y a un incendie, il y a le feu qui est pris. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ben, on va chercher où est-ce qu'il y a le feu, puis éventuellement, on va chercher la sortie aussi. Mais le feu que je vais vous partager ici ce matin, la puissance que je vais vous partager ce matin, n'a rien à faire d'un feu étranger et du feu de l'enfer. C'est le feu qui vient du ciel, qui vient de la présence même de Dieu, du cœur de Dieu, et qui répand parmi nous, qui a répandu dans la première église et qui répandra encore aussi ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Ah, mes amis. Jésus a dit, celui qui vient après moi, pardon, est plus puissant que moi, et quand il sera venu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, gloire à Dieu. Et là, ce que nous voyons dans ce texte est une confrontation de pouvoir, le pouvoir de l'enfer contre la puissance et le pouvoir de Dieu. L'enfer contre le ciel. Amen. Exactement cela, c'est ce que vous voyez devant vos yeux dans la lecture de ce texte-là. Et je suis obligé de vous dire aujourd'hui que l'Église a besoin d'être vêtue plus que jamais de la puissance d'en haut. Plus que jamais, nous sommes confrontés dans le monde entier, parmi les nations à les puissances des ténèbres. Je crois que l'enfer a relâché tous ses démons et les démons sont opérationnels parmi le monde entier, parmi les nations. Et j'aimerais vous dire que les puissances des ténèbres agissent aussi parmi et dans l'Église. Amen. Et s'ils agissent, c'est pour vous détruire. S'ils agissent, c'est pour détruire votre foi. S'ils agissent, c'est pour détruire votre zèle, parce qu'un enfant de Dieu qui est rempli de foi et de puissance et de zèle sont dangereux pour l'enfer. Deviennent une menace pour l'ennemi lui-même. Amen. Il existe un feu démoniaque satanique qui se déchaîne aujourd'hui sur la terre. Et malheureusement, l'Église qui est souvent passive et les membres de l'Église que nous sommes, et je dirais même parfois les pasteurs, les prédicateurs, sont passifs devant l'adversaire, l'ennemi, et ne connaissent pas leur pouvoir et la puissance qu'ils détiennent dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler le diable. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Amen. Nous avons un grand pouvoir, mes amis. Et l'ennemi essaie par tous les moyens de nous intimider. Et les puissances qui sont manifestées là devant Aaron et puis Moïse étaient là tout simplement pour les intimider. Mais gloire à Dieu, le serpent de Moïse et d'Aaron ont à manger les petits serpents. Des magiciens. Nous n'avons pas à craindre. Dieu nous équipe pour faire la guerre à l'enfer et le monde des ténèbres. Nous ne devons pas être passifs. Nous devons être plutôt qualifiés face à l'adversaire, le diable. Ce n'est qu'une église qui est baptisée du Saint-Esprit et de feu qui pourra faire face au feu de l'enfer. Personne d'autre. Tu as besoin d'être rempli de ce feu d'en haut pour faire opposition et faire face vraiment à ce feu terrible de l'enfer et qui agit parmi les nations. Quand on entend ce qui se passe et comment les hommes aujourd'hui agissent et réagissent dans les circonstances parfois qu'ils vivent, oh là là, je dis c'est terrible, derrière cela il y a une influence qui est satanique et qui veut détruire l'humanité, qui veut détruire l'homme, le cœur de l'homme. Dans Acte 28, Paul est sur l'île de Malte. Et puis au verset 3, je vais juste vous lire ça, écoutez bien. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par lequel de la chaleur, parmi la chaleur donc, et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Qu'est-ce que Paul a fait au verset 5? Paul secoua l'animal dans le feu et ressentit aucun mal. Wow! Amen! L'enfer est en feu. Le diable envoie son feu contre l'Église. Dans d'autres mots, les serpents sortent des buissons. Ils sortent de leur cache. Et je vous dis qu'un tas de couvertures humides ne pourra pas éteindre leur feu. Ça prend plus que cela. Ça prend plus que la mollesse, ça prend plus que la timidité. Cela prend quelque chose de puissant qui est en nous et qui nous anime. Et qui dit, diable, tu as fini. C'est fini, c'est terminé. Ton temps, ton règne achève. Et il le sait aussi. Et c'est pourquoi il réagit fortement aujourd'hui dans nos nations, parmi le monde entier. Mais je bénis Dieu de voir la croissance de l'Église. Je bénis Dieu pour parmi les nations, l'Église grandit. Alléluia. Il y a des multitudes qui sont sauvées. Béni soit Dieu. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Vous avez entendu le vieux dicton, vous devez combattre le feu par le feu. Eh bien, c'est vrai. Ça prend le bon feu, le feu divin, pour combattre le feu de l'enfer. Je disais, les serpents sortent des tas de bois, des buissons. Et la chose la plus importante que le ministère peut faire aujourd'hui, c'est d'équiper les saints, les enfants de Dieu, les chers enfants de Dieu, de les équiper. Amen. Non pas avec des fausses doctrines, avec toutes sortes de choses, nouvelles théologies qu'on entend aujourd'hui. Moi, j'en pleure. Je suis peut-être de l'ancienne école, mais je dis gloire à Dieu. Cette ancienne école, c'est l'école de Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Pas besoin de d'autres choses. Alléluia. J'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est Jésus. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui est si précieux. Il y a la puissance de Dieu qui est si précieuse. Il y a la parole de Dieu. Amen. Qui est puissance de Dieu. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de trucs pour que ça marche. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Oh, Dieu est tout puissant, mes amis. Et dans les actes, nous voyons que dès le début de l'Église, Jésus savait que les nouveaux croyants devaient avoir ce remplissage de l'Esprit Saint. Alors, je fais vite, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis, je vais passer à mon texte principal, parce que vous allez voir, il est intéressant. Et on va retirer tellement de leçons. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Alors, je n'entends pas les Bibles qui tournent. Parce que le texte est sur l'écran sans doute. Chapitre 4, et puis, allez, on va lire la partie du verset 23. 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Alors, après quoi? Après qu'il y ait eu un miracle. Chapitre 3, on voit le miracle d'un boiteux de naissance qui est guéri au nom de Jésus. Ça crée une révolution, le message qui est prêché, le salut par grâce, le salut en Jésus-Christ. Vous lisez cela et puis là, c'est un tumulte qui s'élève et les hommes religieux, eh bien, vont tout simplement mettre en prison ces hommes de Dieu, leur interdisant formellement de pouvoir parler encore dans le nom de Jésus. C'est terrible comment le nom de Jésus aujourd'hui est un peu comme un épouvantail. Les gens ont peur. Et pourtant, c'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Amen. C'est ce qui nous permettra de pouvoir rentrer au ciel et d'être dans sa présence. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et ce nom-là fait peur. Ce que j'aimerais vous dire ici ce matin, c'est ceci. Et vous poser une première question. Quelle est la bonne église? On voit souvent les gens qui font du magasinage, ils vont dans les églises, ici et là, et puis, où est la bonne église? Moi, je me dis une chose, c'est que Jésus, lui, recherche son église. Qu'est-ce qu'une bonne église? Il y a un bel orchestre, des beaux murs, et puis tout ce qu'on peut imaginer. On sert même le café avant le culte. Est-ce que c'est ça la bonne église? C'est intéressant, je ne pense pas que Dieu soit contre ça. Le café, ça va. Quoique, bon, ça peut rendre nerveux aussi, mais ça peut réveiller aussi. C'est quoi la bonne église, mes amis? Hein? Où elle est la bonne église? À Québec, il y a des centaines d'églises aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés, il y avait Carrefour Chrétien de la capitale et il y avait l'église Première Avenue, c'était nous. Amen. On a une compétition, il paraît, il y avait une compétition à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, il y a des centaines d'églises. Il y a des bonnes, des moins bonnes. Il y en a qu'il faut parler d'eux aujourd'hui, d'ailleurs. Et qui sont en scandale. Où est la bonne église? Qui est la bonne église? La bonne église, pour certains, le ministère de musique, de haut calibre, la louange qui est dynamique, les chanteurs, les musiciens. Bonne église avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, ayant des locaux spacieux. Vous savez, je ne pense pas que Dieu soit contre tout ça. Hein? Ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas ça la question. Ça nous prend des bâtiments, n'est-ce pas? Et puis, béni soit Dieu si ces bâtiments sont jolis. Et il y a beaucoup de beaux et grands bâtiments parmi les nations, parmi le monde, et qui est vide, non pas de gens, mais vide de l'Esprit de Dieu, qui vide de la puissance de Dieu. Vous rentrez là, c'est froid. Alors, où est la bonne église? Pour certains, une bonne église. En effet, c'est peut-être là où sert le café. Ou bien une tasse de chocolat. Chocolat chaud, s'il vous plaît, hein? Surtout l'hiver s'en vient. Qu'est-ce qui arriverait si on ne vous sert plus le café le dimanche matin? Vous en chercheriez une autre où on sert le café? Notez bien que je vais dans d'autres églises où on sert le café, puis j'aime ça quand j'arrive de pouvoir prendre ma tasse de café. Hein? On est d'accord? Alors, ce n'est pas là le problème. Mais parfois, nous recherchons des choses peut-être qui sont plus intéressantes que ce qui est important. Parce que nous sommes matérialistes souvent, puis nous sommes des humains, et puis dans un monde matérialiste, dans un monde où il faut du confort, et etc., etc. Je dis encore une fois, je ne suis pas contre le confort. Amen. Mais c'est où on met ces choses-là? Quelle place? Quelles sont nos priorités dans l'Église? Quelles sont nos priorités? Savez-vous ce que Dieu recherche aujourd'hui? Les yeux du Seigneur errent dans tout notre pays aujourd'hui à la recherche de son Église. Et on pourrait dire, mais on a évolué depuis que l'Église est née, puis on a une connaissance plus grande, et puis etc., puis on a des moyens, peut-être matériels plus grands. Parmi les nations, on se rend compte qu'il y a des méga-églises. Et je dis bravo pour les méga-églises, encore une fois. Amen. Maintenant, est-ce que c'est cela que Dieu regarde? Dieu regarde au cœur. On est d'accord? C'est vrai qu'on peut être confortable dans des méga-églises. J'en ai visité et puis c'est extraordinaire. Les foules qui adorent le Seigneur, oh là là, c'est soulevant, comme on dit. Amen. Mais ce qui est essentiel, je crois, c'est quand on sort de ces églises, méga-églises, qu'on soit sorti différent. Cette fin de semaine, elle a été préparée pour vous, pour que vous sortiez différent. Pour que vous soyez différent. Pour que vous ayez grandi. Pour que vous ayez reçu quelque chose, une puissance, quelque chose de plus pour aller dans ce monde et pouvoir faire le ministère avec puissance. Et confronter l'enfer, confronter vraiment les puissances des ténèbres, le feu de l'enfer. Alors aux yeux de Dieu, l'Église qui est grande et belle est l'Église qui reconnaît humblement et entièrement leur besoin de lui. J'ai besoin de lui. Je dois admettre que parfois, à cause de toutes les occupations, eh bien, on regardait plus à nos moyens personnels, à ce qu'on a, à nos connaissances, etc., notre expérience. Et je me dis, il y a tellement aujourd'hui, malheureusement, qui font le ministère juste par expérience. Ils prêchent l'Évangile par expérience. Ils ont une connaissance, mais où est la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu est honoré? Oh, il y a un silence dans l'Église. Parce que ce que je dis est vrai et juste. Et ce que je dis ici ce matin n'est pas pour condamner ou juger, mais je crois que c'est Jésus qui juge. Et Dieu se plaît dans un endroit et il se plaira moins dans d'autres. Là où il y a une soif de lui, amen, d'abord, Dieu se plaît. Amen, cherche-moi et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, est-ce que le cœur y est? Est-ce que votre cœur est ici ce matin? Ou bien vous êtes devant votre fourneau à la maison, le poulet est en train de cuire peut-être, ou le rôti. Vous êtes où ce matin? Je suis assis à la même place dimanche après dimanche. Ça c'est ma place. Et puis ne prenez pas ma place s'il vous plaît. Ah, je me souviens, hein, Rimouski. Ah, c'était une église extraordinaire, je l'ai tellement aimé. Il y avait un monsieur, c'était un marin. Puis le marin en question, il arrive dans l'arrière, puis il arrive comme ça. Puis il se met devant une nouvelle famille qui venait juste de rentrer dans l'église. Il était là comme ça. Il ne fallait pas qu'il parle, les gens savaient ce qu'il voulait dire. Alors les gens se sont levés, se sont déplacés, et puis lui, il s'est assis. Oh là là, je lui ai fait des yeux comme ça, hein. J'ai dit, mon gaillard, là, je vais te voir après. On va se parler. Allô? Hein, nos habitudes, nos petites habitudes. C'est ma place. Allez, assieds-toi là. Maintenant, c'est ma place. On est toujours amis?
Mais je vais prier pour vous.
Oh! Allô? Où est la bonne église? Oh, je ne sais pas si vous avez le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Hein? Il y a du stock ce matin encore là. La bonne église ne vient pas de l'œuvre et de l'action de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Elle vient et elle voit les vies éventuellement atteintes et changées par l'Évangile. Et la puissance de Jésus qui change les vies. C'est vrai qu'on a une nostalgie des jours d'autrefois. J'ai une nostalgie des années qu'on a vécues et où on a vu une effusion du Saint-Esprit et on a vu des conversions, comme on dit, à la poche au Québec. On a vécu ces choses-là. Je ne sais pas, si vous êtes nouveau chrétien, peut-être vous ne savez rien de ce moment-là, mais dans les années 80, on a vécu des choses exceptionnelles au Québec. Je me dis, Seigneur, pourquoi plus aujourd'hui? Pourquoi plus aujourd'hui? Mais je vais vous dire, c'est parce que l'Église était naissante. L'Église n'était pas, de Jésus-Christ, composée d'enfants de Dieu, n'était pas tellement nombreuse au Québec. Mais l'Église, elle existe maintenant. Et l'Église a été investie du Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur a permis que vous ayez une connaissance, que vous ayez une expérience, et vous devez être différent d'hier, et le Seigneur espère bien pouvoir travailler au travers de vous et avec vous. Je me souviens de cette époque où j'allais de maison en maison avec Violette, et on rentrait dans les maisons, c'était des maisons des gens qui pratiquaient leur religion. Il y avait des statues partout, des chapelets partout. Mais nous rentrions avec la puissance de Dieu. Nous rentrions là dans ces maisons avec la parole de Dieu. Nous emmenions le nom de Jésus. Et ces gens écoutaient parce qu'ils n'avaient jamais entendu. Ils n'avaient jamais vu une Bible. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a de la connaissance. Il y a peut-être trop de connaissance. Parce que la connaissance, nous dit l'Écriture, enfle. Et on devient orgueilleux éventuellement. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Ouch! La connaissance enfle. Et avec la connaissance qui augmente, et puis avec le système que nous avons aujourd'hui, le pasteur, dans le fond, ben, tout ce qu'il dit, on connaît ça. On pourrait même faire mieux que lui. Jésus cherche son, non pas une institution religieuse, non pas une confession religieuse, il n'y aura pas d'étiquette dans le ciel. Il va avoir les rachetés de l'Éternel, il va avoir les enfants de Dieu nés de nouveau, alléluia. La marque aujourd'hui sur l'enfant de Dieu, c'est le sang de Christ. Avez-vous remarqué qu'on ne parle plus du sang dans les églises? On a peur de parler du sang, pourtant le sang de Christ est encore efficace. Le sang de Christ purifie, sanctifie, il sauve encore. On a une nouvelle théologie. Maintenant, regardez qu'est-ce qui arrive avec la nouvelle théologie. Examinez un peu, écoutez un peu. Et puis triez, parce qu'il faut avoir le tamis avec nous. Le tamis de la parole de Dieu, puis on se rend compte qu'il y a bien des choses, c'est foutaise, c'est inspiré, vraiment. Oh là là, ça peut avoir une belle apparence, mais ça détourne de la voie droite du Seigneur. Vous pourriez dire, pasteur Ruland, il est de l'ancienne école. C'est vrai, je suis de l'ancienne école, mais c'est pourtant l'école qui m'a formé. Non pas l'école des hommes, mais l'école du Saint-Esprit, et où Dieu m'a formé, amen, sur le temps, alléluia. Et le Saint-Esprit m'a appris comment prier pour les malades, le Saint-Esprit m'a appris comment prophétiser, le Saint-Esprit m'a appris comment prêcher l'Évangile. Et je dis, Dieu, pardonne-moi, parce que je n'ai pas toujours été peut-être ce prédicateur fougueux, audacieux. Et pourtant, on en a fait des choses. Mais Dieu, aujourd'hui, a investi des hommes de Dieu, pasteur Allen et puis d'autres, dans notre génération, ils sont investis de l'autorité de Dieu et de dire, voici, c'est cela. Je commence à avoir chaud, là. Ouh! Où est la bonne église? Êtes-vous la bonne église? On va voir quelques ingrédients rapidement parce qu'il y a plusieurs ingrédients que j'aimerais juste vous apporter ici ce matin. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes ici parce que nous voulons recevoir cette puissance d'en haut et ce feu divin. Maintenant, ce feu divin vient parce qu'aussi il y a l'obéissance. L'obéissance vaut mieux et plus que le sacrifice. Verset 31 de ce chapitre 4. Et quand ils eurent prié. Ça dit beaucoup. Et quand ils eurent prié, il y avait une puissance dans la prière de cette église primitive. Aujourd'hui, nous prions et puis souvent, il n'y a rien qui se passe. Il y a des réelles raisons, non? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable. Mais s'il n'y a pas de réponse à nos prières, il y a sans doute des raisons. Il y a un cher monsieur qui m'appelle régulièrement, qui n'est pas de cette ville, d'une autre ville, et puis qui me dit, je comprends pas, je prie, je fais ceci, je fais cela, puis Dieu ne m'exauce pas. Alors, j'ai fait un peu de recherche, j'ai dit Dieu, et une recherche sur pourquoi la prière inexaucée. Alors, je pourrais vous enseigner ça ici ce matin, hein? Pourquoi les prières inexaucées, et les raisons sont multiples. Ce sont des valeurs et des vérités que nous devons savoir et connaître pour que vraiment nous ne puissions pas prier en vain. Vous comprenez? L'Église efficace voit aussi une prière qui est efficace, une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière qui atteint le ciel, le trône de Dieu. Et quand ils eurent prier. Les apôtres ont supporté, là, vous lisez un peu l'Église, comment elle a vécu ces premiers temps, persécution. Ici, les disciples eux-mêmes sont persécutés parce qu'ils prêchent au nom de Jésus, ils enseignent au nom de Jésus. Et les chefs juifs religieux les avaient menacés et leur avaient dit de ne plus parler au nom de Jésus. Clair, hein? C'était tellement clair. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont convoqué le comité. Ils ont convoqué le comité d'église, c'est ça? Essayer d'avoir une stratégie pour contrer cette interdiction? Ils n'ont pas fait cela. Ils ont prié. Je ne dis pas que Dieu ne se sert pas d'intelligence humaine, et je crois que les comités existent, et puis c'est légal, il faut que de toute façon nous ayons un comité d'église. Est-ce que nous avons la sagesse dans ce comité-là? Est-ce qu'on exerce l'intelligence de Dieu plus que l'intelligence humaine? Il y a des questionnements, non, ce matin? On va dire qu'on but, non? Hello! Dites amen! Il faut prier, par exemple, pour ceux qui sont là et qui dirigent, sont des dirigeants dans l'Église. D'avoir l'intelligence et la sagesse de Dieu. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit, ils ont prié, ils se sentaient concernés par la situation. Et imaginez, Pierre, l'homme de Dieu, celui qui faisait des miracles, il se disait, ces gens-là, ah, nous ne voulons pas que Pierre soit tué. Nous ne voulons pas qu'il soit mis à mort. Et même s'il va être en prison, nous savons que Dieu a su prendre ça en main parce qu'il y avait aussi de la prière. Ici, il y a quelque chose, un mouvement de l'esprit qui va se produire dans l'Église, je dirais, parce qu'ils ont prié. Mais une prière de foi, une prière, je dirais, où ils se sentaient concernés. Il y avait une compassion, mais aussi une adresse à Dieu, disant, nous ne voulons pas que les miracles arrêtent. Nous voulons toujours entendre la prédication de l'Évangile. Nous ne voulons pas que tout cela disparaisse. C'est tellement extraordinaire. Alors, on va prier. On veut encore entendre la prédication. On veut encore inviter Jean Ruland et Alain Bowen. Allô? On pourrait être mis en prison, nous aussi. Ils ont prié. Et nous devons prendre l'exemple, c'est un choix ce matin, prendre l'exemple de cette église première et de leur capacité dans l'intercession, la puissance de la prière, accompagnée de la foi. Nous devons prendre un modèle des actes des apôtres. Le livre des actes, pour moi, est un livre que j'aime beaucoup parce que ça nous parle de l'Église primitive, les luttes, les combats, les imperfections, mais aussi la puissance de Dieu. Parce que notre ennemi vient contre nous avec puissance et force et l'Église a besoin du pouvoir divin, céleste, surnaturel de Dieu. Ce que nous appelons surnaturel, comme Pasteur Alain a dit, c'est le naturel de Dieu. Mais nous l'appelons surnaturel. C'est le naturel de Dieu. C'est qui est Dieu au travers de sa puissance, au travers de son pouvoir. Je suis convaincu que le Seigneur essaye d'atteindre son peuple comme jamais auparavant aujourd'hui. Il est là, il est soucieux, il veut voir son peuple béni, il veut voir son peuple grandir, il veut voir son peuple qui obtient des victoires, du succès dans le ministère, dans le témoignage. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir pauvres spirituellement. Et c'est pourquoi il veut nous équiper et nous donner tout ce qui est nécessaire pour avoir ce pouvoir contre les forces des ténèbres. Dieu essaye d'atteindre, de rejoindre. Est-ce qu'il y arrive vraiment? Je ne sais pas. Parfois, il arrive à nous rejoindre, parfois pas. On n'est pas là, on est distrait. Et nos cœurs sont loin, bien loin des fois. C'est vrai, frères et sœurs, nous vivons des temps pas faciles. Et c'est vrai que chaque famille vit des choses dures. Et on voit les familles qui se disloquent, qui se disputent, on voit tellement de choses, les enfants qui partent et qui nous laissent là, puis font leur vie réellement, mais oh là là, qui attriste le cœur des parents. Nous vivons des choses difficiles dans notre monde. Mais regardez un peu autour de vous et regardez tous les immigrants et tous ces gens qui viennent des terres de guerre. Regardez-les, ils sont misérables. Ils cherchent de l'eau. Ils cherchent leur nourriture. Ils sont mal vus, mal accueillis parfois, mal reçus, mal aimés. Amen. Considérez donc tout cela. Qui peut faire la différence? Les hommes. Ils ont un pouvoir financier, mais parfois ils n'utilisent même pas. Ils ont une autorité qu'ils n'autorisent pas bien, de toute façon. Qui peut changer la nature de l'homme aussi? Qui peut changer notre société? Est-ce que c'est les gouvernements qui passent l'un après l'autre avec de nouveaux dirigeants? L'homme reste l'homme. Mais l'Église a un grand pouvoir dans notre société. Même si on l'injure, même si on se moque de l'Église aujourd'hui, et même si on dit n'importe quoi de l'Église, peut-être que c'est notre responsabilité de démontrer la puissance de Dieu, alors ils ne se moqueront plus. Pharaon, quand il a vu la puissance de Dieu, oh là là, même s'il a endurci son cœur, il s'est bien rendu compte qu'il y avait là un grand pouvoir exercé par les hommes de Dieu. Et nous devons faire la preuve aujourd'hui dans notre société que l'Église a encore sa place. Et elle a toujours, et elle aura toujours sa place. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre vous. L'Église, c'est nous. Dans ces derniers temps, oui, Dieu a changé mon message, c'est vrai. Parce qu'il a parlé à mon cœur. Il m'a dit, arrête d'être mou. La mollesse. Arrête d'être mou. Saisis mon autorité, puis parle en mon nom. Dis ce que moi je dis, ne dis pas ce que les hommes veulent entendre. À un certain moment, quand j'ai commencé dans cette direction, je questionnais les gens, je leur demandais, est-ce que vous m'aimez encore? Je ne le dis plus. Que vous m'aimiez encore ou pas, ça, c'est ce qui est important, c'est que je sois aimé du ciel, que je sois aimé de Dieu. Mais attention, il faut le dire avec amour, avec, n'est-ce pas, c'est pas une question de taper avec un gourdin sur la tête. Je vous tape pas sur la tête. Je vous dis cela avec amour. Ce que je vous enseigne ce matin, c'est parce que je vous aime. J'aime l'Église. J'aime les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Et je leur dis, allez, changez un peu. Changez de fusil d'épaule. Puis n'apportez pas seulement une théologie, mais apportez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. On est pèlerin sur la terre, c'est vrai. On est juste de passage. Mais nous devons élever le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons bien servir dans ce royaume, pas seulement dans l'au-delà, mais c'est là. Dieu a installé son royaume là, avec l'Église. Et Jésus est dans l'Église. J'aimerais que ce matin, oui, que ça vous secoue, que ça vous amène à la réflexion, que vous puissiez oublier votre poulet, votre repas de midi. Ce qui est important, c'est la nourriture que Dieu est en train de vous donner, c'est le pain de vie. C'est ce qui vous donne la vie. Soit vous dites, je ne suis pas intéressé d'entendre ça, et puis c'est votre droit aussi. Amen. C'est votre droit aussi, c'est votre droit de chercher une autre église aussi, n'est-ce pas, pasteur? C'est votre droit d'aller, puis d'aller à gauche et à droite, et puis d'essayer de trouver ceci, de trouver cela. Ah, ça me convient, ça me convient pas. Et puis on tourne en rond, et puis il n'y a plus rien qui se passe dans votre vie, parce que vous êtes stérile. Vous allez devenir fertile dans une église où vous êtes bien installé et où vous allez être productif et vous allez exercer les dons spirituels et les talents que Dieu vous a confiés dans l'église.
OK. Ça va? Le ciel qui va me tomber sur la tête. Oh, mes amis, pensez-y. Pensez-y. Wow, merci, 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 merci. Mettez à l'écran Ésaïe chapitre 64. Ésaïe 64. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Il y a un cœur qui est déchiré là, l'homme de Dieu, Ésaïe, et il pousse un cri de désespoir, et il dit, « Oh, si tu déchirais les cieux, oh, si tu déchirais, si tu descendais des cieux, il y a bien des choses qui se feraient, non pas opérées par la main des hommes, mais par ta main puissante, la main de Dieu. Il tient le monde dans sa main, c'est vrai, et encore heureux. Notre petite terre, un peu dans l'atmosphère, lointain, au travers de tous les astres, et puis tout cela, là, même. Essayez un peu de réfléchir, il n'y a pas de fin. Essayez de comprendre cela, moi je ne comprends pas. Regardez à gauche, regardez à droite, il n'y a pas de fin. Ça n'arrête nulle part. Faut-il y avoir vraiment un créateur, non? Dieu qui existe par lui-même, d'ailleurs. Personne n'a créé Dieu. Il existe par lui-même. Mais nous avons un Dieu qui est incroyable. Il mérite notre respect. Il mérite qu'on se courbe devant lui. Et qu'on se prosterne devant lui. On dit, Dieu, tu es grand. Oh, si tu descendais des cieux. Oh, si tu venais. Et si tu agirais. Les nations trembleraient devant toi. L'ennemi, tes ennemis connaîtraient ton nom. Jamais l'œil n'a vu un autre Dieu que toi. Quand est-ce que ce cri a résonné du cœur du prophète? Dans une situation peut-être même qui équivaut plus ou moins à ce que nous vivons aujourd'hui. Dans un temps difficile de ténèbres et où le peuple d'Israël s'était égaré. Il a prononcé ces mots et il pleurait sur la léthargie du peuple de Dieu. Et cet homme de Dieu a déclaré ces paroles parce qu'il savait. Il savait ce qu'il disait. Il savait que c'était nécessaire. Il fallait l'intervention de Dieu. On nous annonce les pires catastrophes, n'est-ce pas, dans les prophéties. Et puis, il y en a qui aiment ça, la prophétie. Moi, je vais moins là-dedans. Je suis peut-être moins prophétique que certains. Mais je me tiens, et puis Dieu me permet de me tenir à ce qui est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Amen. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, pas demain, mais là, aujourd'hui, mon Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui, pas le Dieu de demain. Et il veut faire aujourd'hui, il veut que tu écoutes aujourd'hui, il veut que tu répondes aujourd'hui, demain peut-être, tu ne sais pas. Et à chaque fois que vous montez dans la maison de Dieu, c'est parce qu'il y a une parole de Dieu pour vous. C'est du maintenant, Jésus c'est le maintenant. C'est le Dieu du maintenant. Il ne s'attend pas à ce que tu réfléchisses seulement sur ce que tu entends, mais que tu réagisses. Et un peu Isaïe dira dans le fond, « Seigneur, nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Est-ce que ça vient du plus profond de votre cœur aussi? Il dit, « Seigneur, nous ne pouvons plus continuer comme cela. » L'Église est pauvre. L'Église est démunie. Certains diront non, parce que peut-être il y a des églises qui vivent un réveil. Béni soit Dieu. Mais je ne vois pas de réveil ici au Québec pour l'instant. Je ne vois pas de réveil. Ce que je vois souvent, c'est des mutations, des gens qui traversent de l'autre côté, qui viennent dans une autre église. Mais mes amis, ici, c'est le réservoir pour voir la gloire de Dieu et pour voir des inconvertis venir et qui viennent vous supplier et demander grâce à Dieu. Esaïe était concerné, il dit, non, ça ne peut pas continuer comme cela. Voyez-vous, il y a une excitation dans le fond, mais aussi le résultat éventuellement d'années vécu sans voir réellement la gloire de Dieu, sinon que n'importe quoi qui se produit et qui déchire le cœur de Dieu et déchire l'Église. Alors Esaïe dit, non, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, si tu descendais, oh, si tu te manifestais, mais les choses seraient bien différentes. Des fois, ben, d'une façon, attention à ce que je vais dire là. On peut réagir charnellement, hein, extérieurement même. Qu'est-ce que ça nous rapporte à nous? On peut extérioriser notre foi, oui. Notre joie, oui. Amen. Vous m'observez là, vous dites qu'est-ce qu'il va dire là. Mais est-ce que c'est utile pour le corps de Christ? Est-ce que c'est utile pour ma propre vie? Est-ce que ça bâtit en moi? Est-ce que ça construit en moi quelque chose? Est-ce que ça me fortifie? Est-ce que ça me change? Ou bien ça me fait plaisir? Ouch. Je parle par expérience sans doute, et avec toutes ces longues années de ministère, et voyageant et puis regardant autour de moi. Et Dieu sait qu'on est mon cœur, il n'y a aucun mépris. Amen. Au contraire, je dis comme Esaïe, oh Dieu. Hein, il dira peut-être aussi, oh, sois apaisé envers nous. Amen. Sois apaisé, que ta colère ne se manifeste pas, parce que quand la colère de Dieu se manifeste, aïe, aïe, aïe. Il est un Dieu compassant, lent à la colère. Mais attention, ne jouons pas avec la patience de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une façon, Dieu nous parle tantôt d'une autre façon. Il nous parle par les prophètes, il nous parle par Jésus. Il nous parle donc par son esprit. Que celui qui veut entendre, entende. Ce que l'esprit a à dire à l'Église. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec la même routine religieuse, morte. Nous avons besoin d'un attouchement de ta part, tel que nous n'avons jamais connu. L'Église primitive était une bonne Église, mais parce qu'elle était une Église de prière. C'est par la prière que se manifeste l'impressionnante présence de Dieu. La grâce et la puissance de Dieu, où des batailles sont gagnées. Amen, la sœur, là. Hein? Ouais. Si nous voulons être une grande et belle église, celle du Seigneur qui verra l'Esprit de Dieu bouger et voir des vies sorties des ténèbres, venir à la lumière, de la mort à la vie, de devenir disciple de Christ, alors nous devons être une église de grande prière, c'est-à-dire de prière d'envergure. Des prières d'envergure. On n'est pas restreint, on ne veut pas restreindre Dieu. Nous devons avoir une grande vision parce que nous avons un grand Dieu. Ce n'est pas interdit. Le Seigneur Jésus construira son Église chaque fois que son peuple cherchera et l'appellera en prière. Je connais cela. Et je connais ces temps où le peuple de Dieu se réunissait aussi bien en semaine que le dimanche. Mais en semaine, il y avait des réunions de prière tôt le matin, le mardi matin, et les gens étaient là en prière. On était impressionnés de voir le peuple de Dieu. Évidemment, il y a le boulot pour ceux qui travaillaient, c'était un peu difficile. Mais il y avait un peuple qui était là, qui se rassemblait et qui espérait. La pluie tombe, la pluie descend, là dans mon cœur. Et écoutez bien encore, oh là là. Il pleut partout. Une grande église a besoin d'un grand tremblement par la présence du Saint-Esprit. Regardez le verset 31. L'endroit où ils étaient rassemblés a été secoué et trembla. Peut-être que ces murs ne trembleront pas, hein? Peut-être oui. Mais là, c'est ce qui est arrivé, les murs ont tremblé. Ce que nous avons besoin, c'est un tremblement intérieur. Une vibration. On doit être secoué à l'intérieur. Amen. Il faut que nous soyons pris d'un grand tremblement, non pas seulement de crainte, mais un grand tremblement parce que rempli du feu de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Ça peut m'agiter éventuellement, oui. Gloire à Dieu. Pour certains, comme moi, ben, vous me verrez rarement m'agiter. Pas pourquoi, mais je ne suis pas comme ça. C'est à l'intérieur, hein? Et je voyais parfois des gens autour de moi, puis agités, puis tremblés, puis avec toutes sortes de gestes. Moi, non, je suis tranquille. Mais je dis, waouh! Ça fait du bien. Ça fait du bien, la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Les Africains, ils disent amen, 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 amen. Et les Québécois, ils disent quoi? Ils disent aussi amen, 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 amen. Vous êtes timides. Non, allez, dites-le vraiment. Amen, 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 amen. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour. Non pas un esprit de faiblesse, mais de puissance. Il y a eu là quelque chose qui s'est passé dans cet endroit. Après qu'ils ont eu prié, quelque chose s'est passé, mes amis. Vous comprenez cela? La bonne église, la grande église du Seigneur, la vraie église de Jésus. C'est une église qui est tremblante, qui est bougeante, qui est agissante. C'est une église qui a du succès, c'est une église qui avance, une église qui bouge. Je n'ai jamais été satisfait de mon travail. J'ai dit, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et on a bougé, on a bougé, on a bougé. Et on a vu, et on a vu, et on a vu, et on a vu. Amen, amen, amen. On a besoin d'un grand tremblement par la présence du Saint-Esprit. Il est évident qu'à partir de ce moment, l'Église a connu un mouvement puissant de Dieu dans le lieu où ils étaient. Quelque chose était en train d'arriver. Allez, on va vite là. Comme l'a écrit John Stott, ils ont été secoués pour être davantage inébranlables. Ils vivaient des temps difficiles. Ils ont été secoués, embrasés, touchés, afin qu'ils deviennent inébranlables. Dites avec moi, inébranlable. Une grande église aura un grand tremblement qui produira à son tour un grand témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. On sait, on connaît. N'est-ce pas? Il n'y a rien. Ici, la plupart d'entre vous, je le sais, vous avez connu certainement certains moments ici au Québec extraordinaires. Vagant. Et où les gens accouraient, mais je vous dis, on a couru chez nous. Et on a couru chez vous. C'était des moments intenses, c'était des moments de visitation. Est-ce que Dieu a changé? Et parce qu'on était visités, les gens couraient voir qu'est-ce qui se passait là. La curiosité au départ, mais ils étaient embrasés aussi par le Saint-Esprit. Et ils étaient secoués aussi. Aujourd'hui, on recherche ce qui nous convient dans les églises. On l'a dit tout à l'heure, hein? Bel orchestre, beau pianiste. Mais ça prend plus que cela. Des départements et puis des ministères, ceci et cela, c'est pas. J'ai eu tout cela, puis on a fait tout cela. Mais je savais que ce n'était pas ça qui était suffisant. On avait besoin de la gloire de Dieu. On avait besoin de la présence de Dieu. On avait besoin de la touche du Saint-Esprit. Amen. On avait besoin de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Je savais ça. Et on a recherché cela. Et d'une petite église qu'on avait prise ici à Québec, et bien cette église a grandi parce qu'elle a été visitée par le ciel, par la puissance de Dieu. Et elle s'est développée avec les années. On a eu des temps durs aussi. Hello, vous connaissez ça? On a eu des temps durs. On a pleuré, nous aussi. Le diable tirait sur nous à boulet rouge. Il a essayé par tous les moyens de nous décourager, de nous empêcher d'avancer. On a dit, non, Dieu, tu n'as pas fini. Dieu, tu n'as pas fini. Et Dieu n'a pas fini ici. Le diable a essayé de vous déstabiliser, de détruire votre foi peut-être. Il a essayé de vous décourager, mais Dieu n'a pas fini ici. Dieu n'a pas fini avec vos pasteurs, mes amis. Moi, je vois une différence avec Jean-Pierre et puis son épouse. Depuis des années qu'on se connaît, je vois un homme transformé, je vois un homme, amen, formé par le Seigneur, formé par le Saint-Esprit. On a tous nos temps difficiles et d'épreuves, mais ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu d'agir en nous. Une grande église connaîtra un grand baptême dans l'Esprit Saint. Je dis bien, pas un semblant, mais un grand, un puissant baptême de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il y a de la timidité, je dirais. Nous étions dans une église et puis tout à coup, ma femme se met à parler en langue dans l'église. La voisine qui était là dit à mon épouse à la sortie, mais je t'ai entendu parler en langue, c'était bon. Mais on ne parle plus en langue dans l'église. C'est cela qu'elle nous a dit. On ne parle plus en langue, et pourtant, la langue, c'est la puissance même dans l'intercession, parce que nous ne savons pas toujours quoi dire, hein, n'est-ce pas? On a besoin du secours du Saint-Esprit et nous commençons à intercéder dans des langues qu'on n'a jamais apprises, mais nous le faisons avec foi et confiance. On n'est pas en train de dire des bêtises. Si vous êtes empreint du Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne dites pas des bêtises. Il y a l'inspiration du Saint-Esprit. Et par les langues, il y a de la puissance. Et Paul lui-même dira, je parle en langue plus que vous. C'est vrai qu'il dira, mais cependant dans l'Église, eh bien, ouais, c'est sûr que quand c'est en parler en langue, il n'y a pas d'intercession, s'il y a des nouvelles personnes parmi nous, ils vont demander d'où c'est qu'on vient. Et cela est dû parfois parce qu'il n'y a réellement pas cette présence peut-être qui convainc, l'esprit qui convainc. Je sais que vous comprenez là. Je me souviens, nous étions dans notre sous-sol à Rimouski. Ah, Rimouski, où ils sont les amis de Rimouski? Là, je commence à avoir des gestes un peu comme Alain, là. On est de la même école. Nous étions non pas dans la chambre haute, nous étions dans le sous-sol de notre maison. On avait une petite salle en bas. L'hiver, il fallait enlever les souliers parce qu'on allait détremper le tapis. Alors, on laissait les souliers là-haut et puis parfois, ça sentait mauvais.
Il y en a qui s'amusaient, Alain Bowen, je ne sais pas qui, là, mais à lier les lacets ensemble, et tous les lacets étaient entremêlés. Et puis là, dans notre sous-sol, on a commencé à crier vers Dieu. Il n'y avait rien à Rimouski dans notre église. Là-bas, il y avait deux personnes. Non, quatre personnes. Il y avait mon épouse, moi et les deux filles. On est arrivé à Rimouski, il n'y avait personne. On a commencé à rien. Mais on a commencé à prier. Et puis, il y a des gens d'une autre église à côté qui, eux, n'étaient pas de la Pentecôte. Ils ont dit, on veut avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, ils sont venus chez nous. On ne les a pas fait venir chez nous. Ils sont venus chez nous. On veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, mes amis, oh, 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 le Saint-Esprit est descendu. Il y avait des nouvelles personnes. Il y avait Pierre de la Joie à l'époque. Et puis, il y avait sa sœur Rachel. Et puis, tout à fait nouveau, là. Puis, ils ne connaissaient rien de ce qui se passait là. Mais ils ont été convaincus. Françoise Ouellette, et puis, bon, en tout cas. Des gens qui ont fait leur chemin. Amen. Et qui servent le Seigneur. Allô? Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre basse. Allô? Mais alors, des choses étranges se sont produites. Il y avait une dame qui était là, remplie du Saint-Esprit, et elle tournoyait comme ça, elle était assise, et puis elle tournait. Comment elle faisait? Je ne sais pas. Tout, comme une toupie. Et puis, son mari était un nain, un petit monsieur. Il me passait sous les jambes. Ouais. Et puis, il regardait sa femme avec pitié un peu. Là. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Cette femme était ivre. Elle était remplie. Amen. C'était l'esprit. C'était pas de la chair. C'était vraiment réel. C'était vrai. C'était Dieu. C'était la puissance de Dieu. Ah! Et l'Église a commencé à démarrer, et puis l'Église, c'était les jeunes de l'époque, les étudiants. Les étudiants, hello, les étudiants, ils ont grandi, ils ont vieilli. Ah non, vous êtes encore jeunes, là, vous autres. Là. Et vous êtes encore en feu, hein? Il y a toujours la flamme. Ça n'a pas changé. Et là, ils ont témoigné leur foi, puis toute une classe d'université s'est convertie. Amen, parce qu'il y avait des témoignages dans cette classe. Nos jeunes, il fallait les arrêter. Ils bouleversaient la ville, je vous le dis. Ils étaient partout, sur les coins de rue, dans les restaurants, la Bible, toujours. Jamais ils allaient au restaurant sans la Bible sur le coin de la table. Incroyable! Aujourd'hui, on est gêné. On est coincé. On a besoin que ça déborde. On a besoin d'être secoué. Amen. On a besoin que ça bouge. Boum! Mais que ça bouge par le Saint-Esprit, par exemple. On est d'accord avec ça? Que ça bouge par le Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à revenir après-midi? Vous voulez que ça bouge, vraiment, hein? Vraiment. OK, pasteur. Ma femme me dit non. Je reçois l'instruction. OK, je vais conclure, mais je n'ai pas fini, je vous le dis. Là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Verset 31, là. On l'a-tu? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez-moi bien, là. Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Mais dans la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils avaient besoin d'un plus. Et là, le Saint-Esprit est venu et là, le Saint-Esprit les a remplis pour les encourager, pour les fortifier. Et à la fin du texte, et ils annoncèrent la parole avec assurance. Amen. Ça prend de l'assurance aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pour avoir de l'assurance, pour prêcher l'Évangile, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Ça prend la visitation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous pénaliser, dans le fond, à dire, non, ben ça va, puis je m'en tire bien. Non, non, tu as besoin d'une touche puissante de l'Esprit-Saint. Amen. Alors, je ne peux pas tout vous dire, oh là là, mais bon. Oh Dieu, est-ce qu'on est prêt à faire la prière d'Ésaïe? Oh Dieu, si tu ouvrais le ciel, si tu déchirais le ciel, oh si tu venais maintenant, si tu apparaissais au milieu de nous, si ta gloire descendait, les choses seraient réellement différentes. Je vous dis même que vous n'auriez pas hâte à sortir de cette salle. Poulet, tant pis, allez. Non, non, mais c'est sérieux, mes amis. Lorsque la gloire est là, les gens n'avaient pas hâte de s'en aller. À tout bout de champ, on voit les gens regarder les montres. J'ai prêché dans une église et puis, finalement, il y a quelqu'un qui s'est levé, il était derrière, il a enlevé le cadran. Mon cher pasteur, oh mon cher pasteur. Ça va? Est-ce que vous croyez que vous en avez reçu assez? Et encore. Et encore. Mais je vais vous permettre de venir ici devant tout à l'heure. De venir